intellectuelle. Finalement, il y a une chose à quoi on pense tout au cours de cette de la lecture, c'est à la Boétie.
Ah oui.
On pense à la Boétie.
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux.
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Voilà. C'est-à-dire que cet asservissement à la propagande et cet asservissement aux manipulations de toutes sortes, et tu donnes ces sortes de manipulations, l'une des raisons pourquoi ça fonctionne, c'est que nous sommes enclins à la servitude.
Les formes de domination varient selon le type de société dans laquelle on se trouve. Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de la Boétie est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde, tu vois. Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée, tu comprends, pour que les balises soient précises. Alors, ce qui fait que nos institutions dominantes, dans lesquelles nous vivons, dans nos démocraties libérales, nos institutions dominantes apportent un très, très grand soin à contrôler le discours, à contrôler le débat, à contrôler les termes dans lesquels les discours se tiennent, les solutions possibles envisageables. Et cette façon de cadrer le discours, ben, Chomsky, comme tu sais, a fait un très important travail dans cette direction-là. Et il a sorti, et puis j'en rappelle quelques-uns aussi, moi, dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle, il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors, comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion, à cette cristallisation de l'opinion publique, pour prendre l'expression de Edward Bernays, dont je parle dans le livre et d'autres, tu vois.
Mais justement, alors, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de Bernays. Montre-nous comment Bernays nous a bernés.
C'est très joli. On a été bernés par Bernays. Edward L. Bernays était né en 1891, par là, tu vois, et il est mort en 1995. Alors, il a vécu 103, 104 ans, ce monsieur-là. Et il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. Alors, cet homme-là va être porté par la commission Creel. C'est à ça qu'il faut faire référence d'abord. Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont... y naître. Alors, des gens comme Lippmann ou Bernays sont issus de cette mouvance-là. Et Edward Bernays, donc, va sortir de là et à partir des années 20, va mettre sur pied l'idée de firme de relations publiques. Voilà.
Est-ce qu'il y a des femmes qui fument parmi vous? Oui, des femmes. Oui,
c'est,
oui.
C'est,
oui.
C'est rendu très mal vu.
Tu fumes?
Non, voilà. Il y en a
au moins une.
Il y a une raison pour laquelle il fait, parce que Bernays est un de ceux qui va...
On va te dire pourquoi tu fumes. Pourquoi?
Edward Bernays va mettre les pratiques et les techniques qu'il a inventées, il va les mettre au service de ceux qui sont disposés à payer pour ces bons services, tu vois. Et à un moment donné, la compagnie Lucky Strike va venir le voir, tu vois. Vous connaissez encore cette marque-là, il y a encore des cigarettes Lucky Strike. Et on va demander à Bernays de corriger le problème suivant. Voici le problème. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors, Bernays, on lui soumet le problème. On lui demande de... corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois.